17h30 sur CKRL 89.1 en ce vendredi 28 octobre de l'an de grâce 2011. Vous écoutez La vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, bien entendu, de vous retrouver pour parler animation, pour parler bande dessinée, pour parler illustration. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça va être assez vaste, notre champ d'intérêt. On va parler illustration, notamment avec Nicolas Trost d'Illustration Québec. Il faut dire que cet organisme a publié deux ouvrages, des contes illustrés par plusieurs illustrateurs, en fait 9 par contre. Également, comme à chaque année, en fait, publie un inventaire, un catalogue des illustrateurs de la province. Alors, ce sera pour nous une belle occasion d'aller explorer l'univers de l'illustration et dresser peut-être aussi un état des lieux de ce métier, de ce travail-là, ici dans la province. Également, on va parler un peu de bande dessinée auto-éditée. Il y a un volume qui a été publié il y a quelques temps de ça qui s'appelle Nos Insomnies par une jeune auteure qui s'appelle Janice Saint-Hilaire. Alors, on va parler avec elle de cette BD et du processus de création également qui l'entoure. Également, des collaborateurs qui seront de passage au fil de l'émission, notamment Olivier Bérère-Vidal en fin de parcours, qui nous amènera sur l'univers des blogs avec un regard sur un créateur qui s'appelle Carl Vézina et son personnage Beluga Joe, alors un personnage qui mérite d'être découvert et un univers également qui est décliné certes sur les blogs, mais également sur une pléiade de plateformes jusqu'à la musique également, un type à la démarche extrêmement particulière. Alors Olivier nous en parle en fin d'émission. Et également dans quelques instants, on va jaser avec Stéphane Gravel. Petit regard sur des sorties récentes. On va parler notamment des Borgia en bande dessinée. Alors qu'est-ce que ça donne? Stéphane va avoir la réponse dans quelques instants. Sinon, salutations bien hautes à Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée de Québec. Félicitations à lui et à l'ensemble de l'équipe qui fait ce festival année après année. Pourquoi on les félicite? Parce qu'ils sont en nomination au prix d'excellence des arts et de la culture de la ville de Québec. Alors, ils se retrouvent finalistes dans le prix Ville de Québec, justement. C'est un prix qui vise à souligner le dynamisme, la qualité, l'originalité du travail d'un organisme ou d'un regroupement artistique, culturel, professionnel et qui s'est démarqué au fil de la saison 2010-2011. Et on sait, l'année dernière, Festival de la BD, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais c'était géant, comme on dit. Alors, ils sont en nomination dans cette catégorie pour leur programmation et pour leur volonté de promouvoir le 9e art d'ici et d'ailleurs. Ils sont en nomination aux côtés du Festival Envol et Macadam, ainsi que du Festival d'Opéra de Québec. Alors, une nouvelle fois, félicitations à toute l'équipe. Et pour cette semaine, comme à chaque semaine d'ailleurs, on vous propose un petit extrait musical qui va nous guider au fil de l'heure. Et cette semaine, on va s'intéresser à un groupe qui s'appelle Mogwai. On va aller un peu dans le passé. En fait, ils ont sorti quelques albums récemment, mais je suis resté très, très accroché. Un album qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, je crois, qui s'appelle Mr. Beast. Un univers à la fois rock, à la fois très, très tranquille également. Alors, on va faire un petit panorama de l'univers de ce band au fil de l'émission. On écoute immédiatement un premier extrait qui s'appelle Glasgow Megasnake. Et au retour de cet extrait, on jase avec Stéphane Gravel. We'll be right back. vibrations que je ne sais pas si vous avez senti. C'est comme les guitares, le fond comme un serpent qui se tortille. Alors j'espère que vous l'avez bien saisi, ce serpent. Un serpent qui ne serait pas nécessairement étranger aux frasques de certaines familles bourgeoises de la Renaissance et de la pré-Renaissance et de la post-Renaissance. Je fais un petit lien avec les Borgia en BD, l'un des sujets de la chronique de Stéphane Gravel cette semaine. Bonjour Stéphane.
Un petit lien, tu dis, toi.
On essaye.
Pas mal. Oui, ben c'est ça, je reviens avec la série de Borgia, parce que c'est une série qui, bon, on sait, là, on va en parler, on va bien voir, avoir la version française de la série de télévision qui devrait paraître chez nous bientôt, mm-hmm. parce que les traductions sont sorties. Et puis, on parle beaucoup, à cause de cette série-là, on parle beaucoup des Borgia. Et il y a Jodorowsky et Manara qui avaient fait une série chez Drugstore, qui une série en 4 volumes sur justement les Borgia. Une série qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, bon, moi j'aime beaucoup, on connaît Manara. Manara est un mm-hmm. dessinateur extraordinaire. Il sait surtout bien dessiner les femmes. Il a fait plusieurs bandes dessinées pour adultes au courant de sa carrière. Jodorowsky, lui, est un scénariste un peu éclaté, un peu fou. Il est un cinéaste culte aussi. C'est mm-hmm. quelqu'un qui a une vision métaphysique de l'univers, si on veut. Il est extrêmement particulier.
Et donc les deux, ça doit faire un métissage assez stimulant. Là.
Les deux ensemble, c'est assez intéressant. Écoute, moi j'ai essayé de mettre la main sur le tome 4 de la série des Borgia, parce que c'est une série qui se tient en 4 volumes. Et j'ai eu énormément de difficultés à le trouver. C'est très en demande. C'est une série qui a sorti beaucoup, surtout lorsque Jodorowsky a fait sa visite il y a presque un an à Montréal. On l'avait vu, à Tout le monde en parle. Donc, il avait tout créé. Il avait créé quelque chose alentour de lui, si on veut. Et le tome 4, je viens de le lire et j'ai aussi beaucoup aimé. Malheureusement, c'est pas le meilleur. On essaie de tirer une ligne et de mettre fin à cette histoire-là, qui est l'histoire des Borgia, pour pouvoir passer à d'autres choses. Et je sens que à quelque part, le récit, c'est accéléré. On va vite, on résume et on veut passer à travers les dernières années des Borgia de façon assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'autre série de Jodorowsky qui, elle, est parue chez Delcourt, qui s'appelle le pape maudit, qui est Jules II, qui lui a succédé justement au Borgia, celui qui a empoisonné, si on veut, mm-hmm. pas si on veut, mais qui a empoisonné Borgia. Je ne sais pas si c'est cette série-là qui a demandé à Jodorowsky d'accélérer sa série de l'autre côté, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose.
Non? On a l'impression que ça aurait mérité un cinquième tome pour avoir le temps de bien boucler la boucle, mais si on a lu les trois premiers, ben on se dit, ben regardez, nécessairement, faut finir avec le quatrième, même si, on ne sera pas entièrement satisfait.
Exactement, puis il y a une intégrale qui va sortir bientôt aussi en librairie. Fait que c'est la raison pour laquelle je voulais en parler maintenant, c'est que je sais que dans le mois prochain, là, avant Noël, en tout cas, l'intégrale des Borgia devrait paraître. Puis c'est vrai, parce que c'est une série qui, malgré qu'elle soit chez Glénat, peut facilement être une série qu'on peut lire avant l'autre série qui, elle, est chez Delcourt avec, mm-hmm. Avec le pape terrible qui de toute façon est scénarisé par le même scénariste, sauf qu'on a changé de dessinateur.
Et au niveau du graphisme des Borgia, Stéphane, est-ce qu'il y a des éléments qui viennent distinguer cette série-là de la série BD historique classique, justement, qu'on va avoir quelque chose d'un peu éclaté pour ceux qui n'ont pas encore regardé les trois premiers volumes?
Ben, c'est sûr que c'est plutôt osé. C'est le caractère sexuel est débridé, si on veut, des Borgia est bien exprimé et bien dessiné et exploité aussi par Manara. Manara n'a pas peur de choquer. C'est pas quelqu'un qui se censure beaucoup et qui se retient beaucoup. Donc, on n'est pas dans une BD historique avec un dessin rigide et... Mm-hmm. Et Astaire, mais pas du tout. On a vraiment le talent du dessinateur italien, ou Manara, qui a une vision, lui aussi, de cet univers-là. Puis il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans son dessin, dans cette série-là, c'est qu'il y a un petit côté rougeâtre, sanglant, un peu glauque, qui rend son dessin à quelque part, qui donne un caractère à quelque part un peu éditorial à son dessin. On comprend qu'il veut essayer d'exprimer une émotion, qu'il veut essayer d'exprimer un climat, et ça fonctionne très bien. Puis bon, il dessine tellement bien les femmes, Manara, quand même.
Alors ça, c'est les Borgia chez Glénat. Alors, quatrième volume qui vient de sortir, l'intégrale qui s'en vient. Et Stéphane, il nous reste encore un, deux, trois minutes. Là, il y a Herman qui a publié récemment une nouvelle BD qui s'appelle Nuit de pleine lune.
J'en parle parce que c'est Herman, c'est un dessinateur sur lequel on a tendance à se jeter. On a tendance à acheter du Herman. Herman, c'est un bon dessinateur. Herman, c'est quelqu'un qui, pour moi, est... avec ses grandes séries qu'il a fait dans le passé, il a réussi à amener avec Jérémia, entre autres, un dessin qui est extraordinaire, avec les Tours du Bois Maury, qui est une série qui est extrêmement forte. C'est quelqu'un qui sait dessiner la noirceur, c'est quelqu'un qui sait dessiner l'action, c'est quelqu'un... Je l'aime beaucoup comme dessinateur, ce monsieur-là. Je trouve qu'il a vraiment un talent qui est différent des autres, qui a une façon d'amener toute sa BD avec une dimension d'action. Il y a beaucoup, beaucoup d'action dans son dessin.
Et est-ce que Nuit de pleine lune, répond adéquatement à la réputation qu'on se fait de Gillerman?
Longue introduction, hein?
Uh-huh. Ouais. Non, mais en fait, ça se met à la table. Il y a du suspense, ça, Stéphane.
Non, j'aimerais mieux qu'on lise les anciens, les vieux Herman que celui-là. Malheureusement, c'est une histoire de cinq jeunes... qui décide d'aller faire un vol dans une maison d'un vieux pépé plutôt riche. Ils veulent aller vider son coffre-fort pour pouvoir avoir une fortune. Et puis la nuit va dégénérer.
Mm-hmm. Un peu prévisible, en fait.
Écoute, je l'ai vu, ce film-là, je l'ai lu, cette bande dessinée-là, plus d'une fois, et ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu déçu. En plus, c'est extrêmement violent. Et sans raison. Il y a deux semaines, on parlait un peu de violence avec Battle Royale, mais c'est une violence qui amène tellement une réflexion sur le sens de l'existence. Ça devient ça devient une violence, entre guillemets, zen, qui te fait réfléchir sur la beauté du moment présent. Mais dans la BD d'Herman, dans Nuit de pleine lune, c'est une violence qui sert tout simplement à faire véhiculer une forme d'action.
Puis à amener d'autres violences qui génèrent d'autres actions. On justifie ça un peu de ce que j'en avais perçu en la parcourant. C'est la violence qui attire la violence. Mais comme tu dis, c'est pas nouveau comme précepte et on va pas plus loin que ça non plus dans la bande dessinée. C'est ça le problème.
C'est une BD qui reste agréable à lire parce qu'il y a tellement un beau trait, il y a tellement une belle façon de dessiner. Mais malheureusement, c'est une BD dont il me reste rien. Après la lecture, il va rien me rester. Je vais pas réfléchir là-dessus. Puis en plus, ça se lit très, très vite. Mm-hmm. Donc, mieux vaut aller trouver notre plaisir de lire du Herman dans les vieux Herman.
Alors, d'un côté, on jette un coup d'œil au Borgia, et de l'autre côté, on s'en va dans notre bibliothèque et on sort les vieux Herman.
Exactement.
Voilà. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Merci.
Et on se dit à dans deux semaines.
OK.
À très bientôt.
OK, bye.
Alors voilà, c'était Stéphane Gravel avec ses commentaires BD pour cette semaine. Et bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les titres dont on parle, mais c'est toujours répertorié sur le blog de l'émission à lavieenbd.wordpress.com. Just a Friend in the Night, toujours ici sur les ondes de CKRL. Et on l'a mentionné en début d'émission, on va parler d'illustration cette semaine. Deux ouvrages qui viennent d'être publiés via Illustration Québec. Deux ouvrages de contes, des contes illustrés. Également un autre, un inventaire des illustrateurs au Québec, en fait collectif 2011. Et pour parler un peu de ces ouvrages et également du métier d'illustrateur, on est en compagnie du directeur général d'Illustration Québec, Nicolas Trost. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour nous situer au départ, Illustration Québec, qu'est-ce que c'est, là, en quelques mots?
En fait, Illustration Québec existe depuis 1983. C'est un regroupement d'illustrateurs professionnels et notre mandat est principalement de regrouper et soutenir les illustrateurs et puis d'aider à la diffusion et à la promotion de l'illustration. On est là pour aider finalement les illustrateurs dans leur développement de carrière, que ce soit par des outils de promotion collective ou aussi bien pour au niveau de services foncés, d'informations sur le droit d'auteur, les contrats types, la tarification, etc.
Et de manière générale, en fait, quand on regarde le milieu de l'illustration et de ce que j'en ai vu un peu dans l'inventaire, entre guillemets, qui en est dressé dans le collectif 2011, il y a beaucoup de pratiques et ça semble être un milieu qui, globalement, se porte quand même assez bien.
Se porte bien, tout dépendant en fait des secteurs, étant donné que l'illustration est utilisée aussi bien en publicité que dans les magazines ou que dans le jeunesse. C'est sûr que si on regarde l'utilisation dans les contes jeunesse, dans la littérature jeunesse, il y a beaucoup d'illustrations qui est utilisée. Par contre, ce n'est pas forcément un secteur payant en termes de rémunération pour les illustrateurs, si on compare par exemple plus à la publicité, par exemple.
Donc, ça dépend de l'axe des spécialités qu'on décide de se faire et de la liberté de création, si j'imagine qu'on cherche à avoir, parce que de contrat en contrat, veut pas, les demandes changent et il faut savoir s'adapter aussi.
Exactement. C'est sûr que dans le domaine du jeunesse, il y a une plus grande liberté qui est accordée à l'illustrateur versus en publicité où il y a des contraintes peut-être plus exigeantes, des délais beaucoup plus serrés à respecter.
Et est-ce qu'on fait de plus en plus appel à des illustrateurs justement, autant en publicité que pour des trucs d'animation, pour des recueils, ou est-ce que ça a un peu stagné la demande pour ce type de travailleurs-là?
On dirait qu'on constate quand même une augmentation de la demande. C'est sûr qu'on a, on va dire dans les 10 dernières années, on a eu à se battre contre les banques d'images. Et puis c'est sûr aussi que tout dépendant des secteurs et puis de la clientèle, il y a certains qui vont préférer la photographie à l'illustration parce que ça dépend de qui on vise comme marché puis comme clientèle. Mais c'est sûr que dans les dernières années, on s'est aperçu que les clients qui s'étaient tournés au préalable vers les banques d'images retournent vers l'illustration ou vers la photographie qui répond plus à une demande et à un besoin beaucoup plus précis versus la banque d'images. Des fois, c'est une image générique finalement qui n'est pas faite sur commande. C'est que pas toujours facile à utiliser non plus.
Et ce qui est intéressant aussi, parallèlement, c'est amené dans l'éditorial d'ailleurs qui accompagne le collectif 2011 où l'éditorialiste justement souligne qu'avec les nouvelles technologies, oui, il y a les banques d'images, mais même l'illustrateur se retrouve parfois en compétition avec lui-même et avec les anciennes images qu'il a déjà faites.
Oui, exactement, parce que finalement, l'illustrateur est une personne qui sait d'une licence d'utilisation, donc il ne vend jamais son image au complet, il sait d'une licence, donc par exemple pour un magazine, de publier telle image dans tel numéro, mais cette image-là pourrait être utilisée par un autre magazine, tout simplement pour du packaging ou dans un autre secteur à un autre moment dans une donnée finalement. Ça pourrait être 5 ans plus tard, ou etc. Et c'est sûr que c'est des choses qui existent.
Et un autre élément, d'ailleurs, que je trouvais intéressant, si on complète un peu l'état des lieux, c'est que l'éditorialiste soulignait une espèce de hiérarchie, entre guillemets, dans l'intérieur du métier d'illustrateur, dans la mesure où plus quelqu'un est en demande, plus il est en demande, et donc ce qui fait qu'il y en a des très connus, des très utilisés, et il y en a d'autres qui sont sous-utilisés qu'au côté talent. Là.
Oui, effectivement, mais c'est quand même, je pense, à peu près comme dans n'importe quel secteur, du moment qu'on va utiliser quelqu'un, on va utiliser une personne qui est connue, on a des références. Je pense que les clients, c'est comme des gens ordinaires, je veux dire, ils ont peur de la nouveauté aussi. C'est que des fois, on va tester peut-être la relève pour des projets plus petits qui vont avoir moins de visibilité pour justement, par crainte, je dirais, ou des clients finalement, en fait.
Et dans ce contexte-là, Nicolas Trost, comment s'intègre le collectif 2011? C'est, je crois, c'est le premier est en 86, donc c'est pratiquement une tradition. Donc, c'est quoi un peu l'objectif de cet ouvrage-là, de ce recueil-là?
En fait, c'est la 23e édition de ce collectif-là. Puis le but, c'est vraiment
de créer un outil qui regroupe un certain nombre d'illustrateurs. Et ce collectif-là, en fait, nous, on distribue, on envoie plus de 4000 exemplaires en Amérique du Nord, donc aussi bien au Québec, au Canada qu'aux États-Unis, à des directeurs artistiques dans les différents secteurs, donc en design, en agence de publicité, en magazine, en maison d'édition, pour vraiment présenter le talent des illustrateurs québécois dans le but, finalement, de créer ce pont pour que ces derniers puissent obtenir des contrats.
Et au fil des années, j'imagine que le recueil devient attendu et que ça devient effectivement un bon outil de promotion pour le talent d'ici. Là.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que depuis 23 ans, il a évolué. On s'adapte parce que maintenant, il y a des nouvelles technologies comme avec les portfolios en ligne, des sites Internet. C'est que maintenant, le répertoire n'est plus juste un outil comme un annuaire, mais beaucoup plus un outil d'inspiration où justement, il y a tout un travail au niveau de la mise en page qui a été fait pour que l'image soit vraiment mise de l'avant et la mettre également dans un certain contexte pour favoriser finalement la recherche pour les clients.
Et je dirais en fait, moi j'engagerai pas d'illustrateur à court terme ou à moyen terme, mais j'ai trouvé le regard qu'on peut porter sur ce livre-là absolument fascinant pour ceux qui suivent pas, qui connaissent pas nécessairement cette scène-là, parce que, je le mentionnais au départ, on a là un panorama extrêmement complet des styles, des pratiques d'illustration au Québec, et ça permet aussi une certaine entrée en matière quand on se demande mais qu'est-ce qui se fait justement dans la province là, pour les néophytes, par exemple.
Oui. Tout à fait. Puis comme vous le soulignez, ça permet vraiment de voir qu'il n'y a pas juste des médiums traditionnels, mais il y a également des illustrateurs qui vont mélanger plusieurs techniques, puis il y en a certains qui vont juste aller dans l'ordinateur, puis ça permet de comparer également les styles, parce que souvent, certains clients savent qu'ils veulent utiliser l'illustration, mais ils ne savent pas forcément quoi, puis en faisant ce type d'ouvrage, peuvent justement arriver à plus définir finalement leurs pensées puis leurs besoins.
Et est-ce que c'est un échantillonnage qui est représentatif aussi de ce qui se fait en province, on pourrait dire?
Oui, tout à fait, parce que bien que notre local est à Montréal et qu'il y a une bonne partie des illustrateurs qui sont à Montréal, on essaie de vraiment d'aller chercher tous ceux qui sont à l'extérieur pour vraiment les aider au maximum dans leur promotion. Puis on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de clients qui commencent à délaisser Montréal pour aller justement habiter... mettre leur entreprise finalement en réaction aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clientèle à ce niveau-là.
Et donc, je le mentionnais, donc le collectif 2011 qui est un peu l'échantillonnage, l'objet promotionnel, et parallèlement, vous avez aussi lancé un projet de reprendre les grands classiques de notre enfance en les interprétant avec des illustrations, des membres d'Illustration Québec, et les deux premiers contes, donc Le Petit Pousset et La Belle au bois normand de Charles Perrault, vont être disponibles incessamment en ligne. Neuf illustrateurs différents également à l'intérieur de ces contes. Qu'est-ce qui a amené ce projet-là?
En fait, c'est que cette année, on a fait un partenariat avec la CSDM, donc la Commission scolaire de Montréal, où on a jumelé des illustrateurs à des jeunes auteurs pour créer justement, durant la semaine du français à l'école, pour créer un collectif, finalement, permettre à ces jeunes auteurs de pouvoir voir en image leur texte. Et puis à partir de là, on s'est dit que c'était une bonne idée de reproduire ce type de projet. C'est sûr qu'on essaie toujours de trouver des projets créatifs pour nos membres, pour les sortir de leur zone de confort aussi, puis permettre aussi bien à des gens qui ont des professionnels d'aller aborder le jeunesse d'une autre manière que des gens de la relève qui voudraient peut-être approcher ce secteur-là, mais qui n'ont pas d'expérience. Mais là, ça leur permet d'avoir une expérience, puisqu'on suit vraiment les règles de l'art en matière de production de livres, finalement, avec un directeur artistique, avec des délais à respecter, avec des contraintes également. Mmh. C'est que ça leur permet vraiment d'être confrontés à ça, puis d'avoir également des pièces qu'ils vont pouvoir présenter par la suite dans leur portfolio.
Et pour le lecteur, il y a un petit côté, si on me permet l'expression, un peu casse-gueule, dans la mesure où on parle donc de 9 illustrateurs différents, donc ce qui fait que c'est pas la même personne qui va illustrer l'ensemble du livre, et ce qui fait qu'à chaque page, à chaque illustration, on change de style, on change un peu d'univers visuel, mais en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça ne nous fait pas non plus décrocher du livre. On dirait que ça rentre un peu dans l'esprit aussi de ce projet-là et donc dans lequel on embarque d'emblée. Donc, comment on s'assure justement de réussir à créer quand même quelque chose de cohérent, de cohésif avec 9 illustrateurs, dans le fond?
Ben, en fait, pour ça, on a vraiment eu la chance. On a travaillé avec un de nos membres, qui est le directeur artistique sur le projet, qui est M. François Escamel, qui a vraiment supervisé... Les 9 illustrateurs, il y a eu un choix parmi les membres, parmi ceux à qui on a proposé le projet. On a décidé qui allait dans chacun des 9 livres, comment on allait faire le découpage, à savoir quel allait être le paragraphe illustré. Puis c'est vraiment François qui a supervisé, puis avec son œil extérieur, finalement, s'est assuré. s'assurer qu'il y ait une certaine continuité malgré des styles différents pour justement permettre au lecteur, oui, de découvrir des illustrations différentes, mais permettre une certaine cohérence aussi dans la facture graphique de l'ouvrage.
Et les livres, en fait, je le mentionnais, autant Collectif 2011, autant les livres de contes vont être disponibles en ligne. Donc, il y a aussi une grosse invitation au téléchargement, à aller découvrir ça en ligne, justement, donc une belle liberté d'usage, entre guillemets.
Oui, tout à fait. C'est sûr que le collectif est déjà actuellement sur notre site. Les gens peuvent le faire tout de suite en ligne, finalement. Le collectif, lui, les comptes vont être d'ici à peu près un mois. Là, on est en train de finaliser la mise en page. Mais c'est vraiment de rendre accessible ce type d'ouvrage-là et puis de permettre, finalement, la promotion de l'illustrateur et puis des illustrateurs québécois.
Et d'autres projets comme ça qui s'en viennent dans les cartes d'Illustration Québec?
Ben, c'est sûr qu'une fois qu'on aura fait ces deux premiers comptes, on envisage de poursuivre l'aventure. On va déjà analyser l'accueil qui va être fait par rapport à ces comptes-là. Puis déjà, je pourrais vous mentionner que ces comptes-là vont être, les illustrations de ces comptes-là vont, il y a une exposition qui va être présentée par rapport à ces comptes-là dans le cadre du Festival Métropolis Bleu qui va avoir lieu en avril prochain à Montréal. C'est qu'on essaie également le projet, de lui permettre d'avoir une vie beaucoup plus longue que juste temporaire, finalement.
Alors, on invite les gens à visiter donc le portail illustrationquebec.com pour trouver tout ça et toutes les informations également autour de votre organisme. Nicolas Trost, directeur général, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Ah ben voilà, nous on retourne avec un petit extrait musical, toujours Mogwai. On écoute la pièce Team Undead, ou plutôt un petit extrait de cette pièce. Sorti également, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le nouveau Johan Spahr qui vient de paraître, une nouvelle série qu'il a lancée tout récemment qui s'appelle Les Lumières de la France, volume 1. La comtesse éponyme, et en fait plusieurs critiques disent, regardez, on est bien content de voir Spahr revenir avec cet album-là, c'est vraiment un Johan Spahr qui revient en pleine forme, il faut dire qu'il nous offre avec ce volume-là un petit bonheur, je pense un petit bonheur assez particulier, par contre un univers complètement déluré et aussi extrêmement lubrique. On se retrouve en plein cœur du 17e siècle. Donc, un noble français, un penseur qui est également commerçant. Et on se retrouve en plein cœur aussi de réflexions autour de l'esclavage et autour du commerce triangulaire, donc du commerce des esclaves. Et c'est cet homme-là donc qui vit de ce commerce, mais qui questionne également l'esclavage et qui a une prise de position assez ferme là-dessus. Il est contre ça. Éventuellement, en fait, c'est un moment phare d'ailleurs dans cet album-là, son épouse, la comtesse éponyme, qui lui dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, tu peux faire beaucoup, c'est toi qui le gères, ce commerce-là. Et il répond, il dit, ben oui, je vais faire beaucoup, je vais prendre position, je vais écrire. Parce qu'il ne veut pas non plus perdre ce qui fait de son rythme de vie, son rythme de vie finalement, donc son argent et le reste. Donc, le trait de Spahr qui est très libre, qui est très caricatural peut-être dans une certaine mesure, qui est très fin également, qui se prête bien à l'ambiance de cette série. Je mentionnais un côté débridé, c'est que les personnages sont aussi autant les personnages principaux que les autres qui vont peupler cet album-là, un peu en marge d'une certaine réalité, donc ce qui fait que on a l'impression aussi de prendre faire un petit séjour chez les fous. Donc c'est assez particulier comme univers, mais ces personnages-là, c'est aussi ceux de Spahr auxquels ils nous avaient habitués. Des personnages aux grands yeux, des phrases limpides, aux accents enfantins, des animaux parlants pleins de sagesse. Alors ça donne quelque chose de très intéressant. Je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil peut-être donc de ce premier tome, et on a bien hâte de voir les deux autres parce qu'on nous annonce un triptyque. Un petit clin d'œil également avant d'aller en pause sur Gastoun, le nouvel album de Gaston Lagaffe. Dans une certaine mesure, en fait, il s'agit du neveu de Gaston Lagaffe. C'est aux éditions Merci Production. Et j'avoue avoir reçu cet album avec beaucoup de scepticisme en me disant, ben, c'est essentiellement une opération promotionnelle que de proposer cet album-là. Il n'y a pas nécessairement de raison, justement, de sortir comme ça les aventures du neveu de Gaston Lagaffe. Et à la lecture de cet album, qui n'est pas mauvais en soi, en fait, il y a des bons gags, il y a des gags qui marchent moins, mais cette question-là demeure. Pourquoi a-t-il fallu faire de ce personnage-là le neveu de Gaston? Il n'y a pas de lien implicite, il n'y a pas de raison autre que mercantile, à mon sens, qui justifie ce choix-là. Donc, l'album n'est pas déplaisant, 44 pages de gags avec le petit Jules, la petite Jeanne, le prix de Messmaker, le jeune garçon inventeur écolo n'a pas nécessairement quoi que ce soit en commun avec son célèbre oncle, si ce n'est de son apparence faciale et vestimentaire. Alors, un album sympathique, certes, mais qui ne vaut pas nécessairement le détour. On prend une courte pause et au retour, Janis Saint-Hilaire et Olivier Bérard-Vidal.
C'est possible, n'attends plus. Duchesse, lise-toi.
Le vendredi 4 novembre, le Cercle fête ses 4 ans. Pour souligner le carrefour artistique et agroalimentaire qui grandit en Saint-Roch, le Cercle vous invite à son anniversaire sous la forme d'un grand marché festif. Venez voir et entendre Bernard Adamus, Magotti Bratz, Jewish Daily Night, Cabina Obscura, This Is Not Design, Morgan Bridge et Stigma Photo. Venez déguster de la cuisine du Cercle, de la boîte à pain, la poissonnerie de Jeff, Penché, la coop des grands rangs, l'artisan charcutier, la face cachée de la pomme, Appleton Reserve et Loukoum Cupcake. Le vendredi 4 novembre de 18h à 3h du matin. Le happening, c'est la fête du cercle. Information 88 988 76 84. Le tradeunioncercle.ca.
Remember how I'm going to live forever.
Le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Sur les ondes de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et il y a un fanzine fort sympathique qui a été publié il y a quelques temps qui s'appelle Nos Insomnies. On avait envie d'amener ça à vos oreilles et donc on a invité l'auteur à se joindre à nous. Elle est au bout du fil, Janis Saint-Hilaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'album s'appelle Nos Insomnies. Je mentionne tout de suite le site web parce que c'est là, entre autres, qu'il est disponible, janissaint-hilaire.com, Janis DJ. Il y a également peut-être quelques exemplaires qui restent ici à Québec à la librairie Phylactère. Et Janice, en fait, la création de Nos Insomnies, si on remonte un peu le processus, ça a démarré pendant un événement BD qui s'appelait D'heure en heure.
Exactement, organisé par Kaylin Johnson.
Et donc, l'idée de l'événement, c'était de faire une planche par heure, dans le fond, ou sur une journée?
Ben, en fait, ça dépend vraiment des auteurs. On peut faire une case à l'heure si on veut. Ça dépend du concept. Donc, Moi, j'avais décidé de faire un espèce de concept, là, deux cases à l'heure, qui fait à peu près le résumé de ce qui se passe dans la journée.
Et c'est devenu un peu la matière première, justement, de nos insomnies, où on raconte un récit minute en minute, d'heure en heure, justement, d'une nuit qui s'éternise et des réflexions qui l'accompagnent.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a amené vers ce terrain-là? Pourquoi avoir envie de raconter, justement, cette nuit-là?
En fait, c'est ça. Comme je suis partie d'heure en heure, j'avais déjà quand même un squelette de narration qui était le temps d'une journée. Et nos insomnies, ça a comme un peu été la continuité parce que pendant que je faisais d'heure en heure, il y a beaucoup de choses, je réfléchissais beaucoup parce que je savais que j'avais une bande dessinée à faire. Donc, chaque truc que je faisais à l'heure, je réfléchissais, je me demandais un peu ce que j'allais mettre dedans. Fait qu'il y a eu quand même pas mal de réflexions. C'était l'hiver, j'étais fatiguée pour vrai. Il se passait énormément de choses. Donc, j'ai essayé de voir, de pousser plus loin un peu cette idée-là de « OK, il se passe ça dans la journée, le cadre est quand même clair, sauf que qu'est-ce qui se passe entre ces petits moments-là, qu'est-ce qui se passe entre ces petites anecdotes quotidiennes-là de cette journée-là? »
Et si on reste dans le processus de création, ce qui est ressorti de Runner, c'est un 19 pages. Ce qu'on a en fanzine, en album, pourrait-on dire, c'est beaucoup plus long. Donc, il y a vraiment eu le défi d'allonger un peu cette réflexion-là et de pousser plus loin, justement, ce qui se passe dans l'esprit de votre protagoniste.
Oui, exactement, exactement.
Et comment ça s'est passé, justement, parce qu'il faut bien faire long, il ne faut pas faire long pour faire long, là.
Oui, en fait, il y a eu beaucoup quand même de coupures à la fin. J'aurais pu en faire aussi beaucoup plus. Je me suis rendu compte en commençant à travailler que je suis revenue avec Québec, avec le temps où j'ai habité là, le temps où j'ai rencontré mon amoureux, le temps où je suis tombée enceinte. Tous ces moments-là sont arrivés quand même très, très proches l'un de l'autre. Et je déménageais, je retournais à Montréal, donc je revenais dans ma région, je venais me réancrer. Donc, cet aspect-là, c'est ce qui est ressorti le plus pendant la journée, pendant mes réflexions et tout ça. Donc, je suis allée dans ce sens-là. Puis, comme je parlais de mon fils, de la fatigue, de la maternité, je me suis dit, à ce moment-là, je vais pousser pour vrai, je vais retourner à la source, donc à Québec, à mon amoureux, à qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est construit un petit peu. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. Je suis allée très loin, je suis revenue, j'ai fait des choix. C'est un peu ça qui s'est passé.
Et il y a un côté, donc, une démarche d'autofiction, mais où il y a un ancrage qui est très clair, justement, avec votre vie, avec ce que vous avez vécu, comme vous le mentionnez, et c'est énoncé aussi assez clairement dans la BD, puisque vous intégrez carrément une photo à un moment donné pour dire, ce que j'ai raconté, ça m'est arrivé en partie, là.
Oui, exact. Je l'ai trouvé après l'avoir terminé, en fait, la photo. J'ai fait, la preuve.
Et ce qui est intéressant dans l'utilisation que vous faites, en fait, vous avez gardé l'esprit, vous le mentionniez tout à l'heure, de deux cases, et il y a beaucoup de présence de narration. En fait, le dessin qui est plutôt là, j'ai l'impression, et vous pourrez me corriger ou m'appuyer, qui est là pour créer une ambiance autour de la narration au crayon.
Oui, je ne sais pas si vous avez pu regarder sur le blog, il a la version initiale. Mm-hmm. Il y avait vraiment des cases gauche-droite, puis c'était vraiment pour le web, parce que gauche-droite sur le web, ça se fait bien, mais en livre, ça se fait plus ou moins bien. Donc, j'ai transposé l'idée comme là, c'est plus à la verticale dans le livre. Donc, avec toute cette transposition-là, il y a du texte qui est venu s'ajouter. Puis, effectivement, le texte est devenu un peu plus important et le dessin beaucoup plus accessoire. Mais en même temps, comme c'est de la bande dessinée, je suis plus ou moins à l'aise de dire accessoire. Là, ça vient ensemble. Mais oui, effectivement, j'ai l'impression que les dessins sont plus devenus une ambiance, un appui pour le texte, quelque chose pour se reposer l'œil un peu, puis peut-être prendre le temps de pas lire tout d'une traite un texte, mais bien de regarder aussi un peu ce qui peut se passer, puis comment moi je voyais ma réalité dans le fond.
Oui, effectivement, parce que les dessins, s'il n'y avait pas les dessins, en fait, le texte est quand même, il est assez bref, il est concis, il va droit au but, mais les dessins, justement, ça force à s'arrêter, dans le fond, ça vient le rythmer carrément.
C'est ça.
Et selon la grosseur des dessins aussi, le rythmer plus ou moins long, de manière longue ou de manière animée.
Exactement.
Et ces dessins-là aussi, Janice Saint-Hilaire, c'est dessiné au trait, on sent un côté peut-être un peu brut à ça. Pourquoi avoir choisi un peu ce type d'esthétique-là que vous proposez?
Bien, à la base, c'est à cause d'heure en heure, parce que de se lancer dans quelque chose de très complexe pour quand tu as deux cases à faire à l'heure, c'est quand même beaucoup. Donc, le côté brut, le côté garoché un peu sur le papier, c'est sorti de là. Puis depuis, je continue à dessiner tout ça, puis je me rends compte que le crayon mine, c'est mon outil. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose de fragile puis de spontané dans le crayon mine puis ça se retravaille très, très bien aussi à l'écran ensuite. Donc, c'est un peu c'est un peu un concours de circonstances, mais j'adore ce médium-là finalement. Donc, c'est ça.
Oui, ça vient accentuer peut-être un peu le côté journal à la limite de cette bande dessinée-là.
Oui, exact.
Et ce projet-là, donc, il est disponible depuis déjà quelques temps. C'est mm-hmm. un premier album aussi de votre côté.
Oui, c'est un premier album relié et tout que je chéris vraiment beaucoup. Sinon, je fais beaucoup de petits trucs illustrations sur le web. Là, je m'amuse énormément à faire des petites bandes dessinées. Mais ouais, c'est un premier gros projet.
Et nécessairement, en fait, dans un contexte comme ça, autant que ce soit dans un heure en heure, justement, où on crée collectivement ou avec le blog, où il y a beaucoup, beaucoup de rétroactions, donc ça devient des bonnes plateformes, j'imagine, pour des jeunes auteurs comme vous, pour expérimenter, justement, pour trouver son style, trouver sa voix, entre guillemets, en bande dessinée.
Oui, ben c'est fun d'avoir des commentaires des gens. Moi, je serais très ouverte aux commentaires, j'aime full ça. Mais je dirais que le blog me permet surtout une certaine discipline de dire, OK, bon, mais là, ça fait une semaine que j'ai rien mis, je me sens un peu mal, ou ça me permet de communiquer, d'essayer des trucs. C'est quand je vois que je mets quelque chose, puis j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires, puis que moi, je mets particulièrement, mettons, un médium particulier, ben, je me dis, ah, bon, ben, gars, ça peut quand même fonctionner, ça fonctionne avec moi. Fait que des fois, c'est le fun, ça confirme. Des fois, c'est, ah, OK, bon, finalement, ça fonctionne pas du tout. Puis c'est correct aussi, tu sais, c'est le fun de, parce que je crois que c'est le fun de communiquer et d'avoir un échange, tu sais, communiquer tout seul, c'est un peu plate.
Mais surtout, en fait, on le dit souvent, en fait, le métier et le travail de dessinateur, de BDiste, c'est un travail au départ solitaire.
Exactement. Donc, le blog, j'utilise vraiment comme premier contact et pour aussi m'amuser. Là, c'est vraiment mon terrain de jeu à moi où je me retiens absolument pas de mettre ce que j'ai envie de mettre.
Ben Janice Saint-Hilaire, on invite les gens qui nous écoutent à jeter un petit coup d'œil justement à nos insomnies, à ne pas dormir avec vous pendant quelques heures. Alors, j'invite les gens donc à aller voir sur janicesainthilaire.com, donc DJ Janice, et, oui. Ou sinon d'aller faire un petit tour chez Philacta. Peut-être y en a-t-il encore quelques-uns. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Bonne poursuite.
Merci, au revoir.
Ah ben voilà, donc Janice Saint-Hilaire, auteur de Nos Insomnies. On prend une petite pause musicale. On écoute un dernier extrait de Mogwai avec la pièce Auto Rock. Cette semaine, et pour le faire, mon Dieu, il y a subitement plein de monde en studio. Alors, je les salue successivement, puisque ben d'abord, en fait, Olivier Berrère-Vidal, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as décidé de joindre quelques acolytes à toi pour ta chronique de cette semaine.
Exactement.
Alors, les acolytes sont, ben, on le connaît comme collaborateur à l'émission, Sam Murdoch, bonjour.
Hello.
Et on le connaît également de plusieurs travaux qu'il a réalisés. Pierre Girard, bonjour.
Tourlou.
Tourlou. Alors, ben, Olivier, en fait, pourquoi tout ce beau monde et de quoi parle-t-on cette semaine?
Ce soir, on va parler de Carl Vézina, qui est un artiste de Montréal qui est, je dois dire, mon idole. C'est comme ça que je résumerais Carl Vézina. J'ai invité Sam parce que parce qu'il connaît bien Carl, et Pierre parce qu'il passait dans le coin.
C'est vrai, je pense. On l'a appelé. Il y a toujours des bonnes excuses pour avoir Pierre Gérard avec nous.
Je pense aussi.
Pour le néophyte, qui est Carl Vézina?
Qui est Carl Vézina? C'est une excellente question. Nous-mêmes, on ne sait pas exactement qui est Carl Vézina. C'est un créateur de bande dessinée de fanzine. Il publie en ligne le webcomic Beluga Joe, qu'on vous invite à aller voir à l'adresse belugajoe.blogspot.com. Des exemples de titres, des compilations qu'il a publiées récemment. Tout est plate à part fourrer puis dormir. Yeah, I know, me too. The Cosby Show, not peau de banane. Ou Having Fun is Overrated. Ça vous donne une idée du genre d'humour?
Un côté assez déluré, assez absurde.
Moi, j'ai commencé à...
Non!
Tu trouves... Non?
C'est pas un côté absurde. Non, il parle de, finalement, Carl. Est-ce que je te le mets?
Oui. Je pense qu'on t'entend.
Oui. Carl parle de son quotidien, finalement. Puis le format, donc, Beluga Joe, c'est comme des Bazooka Joe. Mm-hmm. Donc, c'est des toutes petites bandes dessinées à l'intérieur. Puis,
Une case.
Puis, donc, c'est un beluga puis une baleine qui se parlent. Puis, le gars, il a toujours été pris au ridicule pendant des années parce que c'est toujours le même dessin qui est toujours un peu ridicule. Même sa famille ne le croyait pas quand il se levait tous les matins à faire des trucs. Puis, il y a une espèce de nom... Tu sais, un espèce de nom, Carl Vézina, c'est un nom commun. Puis, les deux sont comme indissociables. C'est devenu comme Bruce Willis, là. Ou est-ce que tu rencontres Carl Vézina, puis juste dire son nom, tu comprends toute la situation, tout ce qui se passe.
Ces bandes dessinées sont un peu, je pense, ce qu'il vit réellement.
Ben, c'est autobiographique.
C'est très, très autobiographique, mais il y a quand même toujours comme une petite ambiguïté à savoir qu'est-ce qui est vraiment vrai, tout ça. Mais surtout, moi, ce que je trouve beau dans ce qu'il fait, c'est drôle. Mais c'est vraiment, mais c'est drôle, mais c'est spécial, puis c'est comme une sorte de franchise brutale sur, comme une sorte de fenêtre sur ce que quelqu'un peut vraiment penser, puis ce qu'on peut tous penser, mais qu'on ne dit jamais, puis lui, il écrit, je pense, moi je vois ça comme ça, il écrit, puis il met en bande dessinée tout ce qui lui passe par la tête, comme sans filtrer ou sans se dire, ah non, ça je peux pas dire ça, c'est pas possible.
Donc ce que, pour résumer un peu, la première impression qu'on peut avoir, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Après ça, on se met à lire et éventuellement, ça devient un peu comme des bonbons sûrs. Il y a un petit goût d'orvenésie constant.
Ah, 100%. Puis au départ, ce qui est drôle, c'est que justement, le dessin n'est pas super beau. Les thèmes sont toujours un peu louches et l'ambiguïté. Un peu comme... Moi, je compare à Joe Matt, Seth, ou sinon des auteurs anglophones canadiens. Chester Brown aussi, parce qu'il y a aussi ce côté sexuel, il parle de sa vie, comme on le disait tantôt, puis c'est drôle parce que c'est le beluga qui parle à la baleine, mais donc c'est un peu lui qui a un espèce de dialogue.
Mais le beluga, c'est-tu le petit ou c'est le gros que je regarde là?
Le beluga, c'est à gauche.
Ah,
ouais, c'est le beluga. Okay. Donc, c'est une baleine.
Je pourrais en lire un en nom, comme tout le monde comprendrait. Alors, le beluga, je me suis trouvé une job en attendant. La baleine, en attendant quoi? Le beluga, en attendant de mourir. La baleine, ah, c'est cute ça.
Parmi les thèmes récurrents, il y a le fait d'être amoureux d'une fille qui ne l'aime pas.
Qui s'appelle Nadine.
La masturbation, le fait de ne pas travailler. C'est pas mal, ça, je pense.
Mais au complet, justement, bon, le personnage de Carl est comme étrange, puis un peu une espèce de Andy Kaufman comme personnage. Sans vouloir, il y a une espèce de charisme, sans vouloir, il y a une histoire étrange. Il fait des cartes, il y a ses cartes d'affaires qu'il a fait qui... c'est quoi sa carte d'affaires? Ça dit, c'est son site web, Beluga Joe, puis sa carte d'affaires, c'est marqué « Triste que j'en ai des regrets ».
Ben, ça, moi, j'allais dire, moi, j'ai commencé récemment à regarder Louis C.K., qui est un humoriste américain de 42 ans. Ça me fait beaucoup penser à Carl Vézina, comme ce genre d'humour-là. Fait que si vous connaissez Louis C.K. et que ça vous intéresse, je vous recommande Beluga Joe.
Et la raison aussi pour laquelle, en fait, on ne parle pas juste de Beluga Joe, mais on parle de Carl Vézina, c'est parce que cet esprit-là aussi est décliné sur plusieurs plateformes. En fait, il ne fait pas que de la BD, il fait de la musique, il fait...
Ouais. Il fait de la musique, puis c'est entre autres, dans ses bandes dessinées, il parle de... c'est cool faire de la musique, fait que je vais en faire, je vais pouvoir pogner des filles comme ça. Puis plus tard, dans d'autres bandes dessinées, il se met à dire « Oh, finalement, tout le monde fait de la musique. C'est plus si cool que ça, faire de la musique. Je vais plutôt faire comme une application pour iPod. »
Mais puis... à son dernier show qu'il a fait, c'est en fin de compte, je pensais qu'il chantait, puis j'ai découvert qu'il faisait du lip-sync sur une tape cassette.
Il fait lip-sync, performance, je dis un peu à Andy Kaufman, des trucs étranges. Puis c'est toujours des petits formats. Les Beluga Joe, c'est des recueils. C'est publié chaque jour, ou presque, sur en Internet, ligne. En ligne. Puis après, il fait des recueils donc qui sont brochés, photocopiés, colorés à la main. Puis on t'en parle tantôt, il y a une compagnie de disques aussi qui s'appelle Les Disques Musique, qui sont aussi gravés à la main. En fait, c'est comme super personnel. Puis à chaque fois, justement, encore le moins le sérieux, les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Puis dernièrement, il était invité pour les 24 heures de la bande dessinée. À Exposine, il a gagné pour la meilleure fanzine francophone. Il était invité pour Urbania de dessiner des Beluga Joe. Il se retrouve invité partout.
C'est comme le côté minimaliste, dans le fond, qui vient séduire peut-être justement le fait que c'est répété, mais qu'il y a quand même un gros recul. De ce que j'en comprends, il y a quand même un gros recul par rapport à ce qu'il fait. Il joue un peu avec le côté absurde, avec le côté cocasse, réfléchi, artisanal.
Il ne s'est pas dessiné, mais c'est vraiment un auteur et un humoriste, moi, que je trouve exceptionnel.
C'est quelqu'un de drôle, mais qui ne le sait pas. Des fois, c'est comme à son dépens. Toutes les situations que Carl Vézina se retrouve dedans, ça devient une situation. Moi, je l'ai rencontré Under the Snow à Montréal, qui est un salon de fanzine, publication parallèle, à l'hiver, pendant le festival Sous la neige Under the Snow. Je rencontre Carl Vézina, puis là, il vient à ma table, il veut me changer des disques contre des fanzines. Moi, je suis toujours prêt à changer des disques contre des livres. Puis il me présente, puis il dit: tu fumes-tu, toi? Je dis: non, je fume pas. Il dit: parce que là, j'ai des cigarettes en dessous de ma table. Puis je dis: quoi, t'as-tu j'ai un carton de cigarettes en dessous de ma table que je vends. Puis il dit: ma mère qui m'a rapporté ça d'Égypte. Puis il dit: tu fumes-tu? Il dit: non, c'est pour mes amis. Puis il y a toujours une histoire pas possible. Puis son père, à lui, travaille chez Air Canada depuis des années. Fait qu'il parle à travers la planète pour vraiment pas cher. Fait qu'il y a une collection photo de lui d'après tous les pays du monde. Avec des chameaux, avec des éléphants, il est allé au Népal, il est allé au Liban, il est allé partout en Amérique du Sud. Il a fait le tour de la planète en entier. Il y a pas une... Souvent, ce qu'on a en bande dessinée ou en musique, il y a une espèce de magie. Il y a quelque chose qui fait que les gens ont une espèce de magie, une espèce de charisme. C'est pas tous les gens qui l'ont. Puis tu rencontres quelqu'un de spécial.
Il n'a vraiment pas l'air spécial.
Non.
C'est ça qui est beau avec Carl. C'est comme un être comme ultra ordinaire. Il a l'air ultra ordinaire a priori.
Mais c'est un personnage. Puis assez que à travers, c'est devenu un ami parce qu'on a fait beaucoup des salons ensemble, des fanzines, on fait des longues distances avec en voiture. Puis on se retrouve, puis tout les situations en compagnie de cette personne-là sont mémorables.
C'est une mine inépuisable d'histoire. Écoute, on est allé où en voiture ensemble pendant comme 13 heures.
Halifax.
On est allé à Halifax, aller-retour avec lui. Il n'a pas répété deux fois la même histoire. Il est comme un nombre inépuisable d'histoires différentes, toutes aussi farfelues et drôles les unes que les autres.
Moi, j'aime créer une légende autour de Carl Vézina quand j'en parle et tout.
Et c'est ce qu'on est en train de faire.
C'est ce qu'on est en train de faire pour vrai. Non, c'est pour ça qu'il est mort, pour qu'on en parle comme si c'était une grande vie.
Il est toujours en vie, on peut le lire et on peut le rencontrer.
Toujours en vie avec son... Puis le nom Beluga Joe, des fois, ça fait peur un peu aux filles avec des titres comme « Tout est plate à part fourrer puis dormir ». Mais c'est super, super touchant.
Il y a aussi son amant pour le frigo. Ouais. Une photo de lui pour le frigo.
Oui, il avait fait un fanzine qui vendait seulement aux filles.
Puis le titre du fanzine, c'était son numéro de téléphone.
moi, j'ai dû demander à une amie d'aller lui acheter parce que je voulais pouvoir le lire. Il m'a dit: je peux pas te le vendre, c'est comme ça, mais tu peux donner 5$ à une fille pour qu'elle vienne me l'acheter, ça c'est correct.
C'est la seule manière de l'obtenir.
J'ai dû passer par ça pour l'obtenir.
Et c'est vraiment fait, parce que nécessairement, on pourrait s'imaginer, je veux dire, vous l'avez mentionné, les Beluga Joe, c'est pas mal toujours à peu près la même image, à peu près le même nombre de répliques, le même cadre, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on s'entanne pas, et ça vient un peu directement se relier à ces anecdotes-là que vous nous racontez autour de l'individu. On se fatigue pas de Carl Vézina, donc
c'est
le Beluga Joe.
Non, parce que c'est le quotidien, il en fait un par jour. Donc, en les lisant, puis les recueils que tu peux avoir, c'est ce qu'on Anthologie Beluga Joe, donc d'une date de septembre. C'est souvent un an. Ils ont le septembre 2008 à septembre 2009. Donc, au quotidien, tu vois tout ce qu'elle fait tous les jours, puis l'histoire du printemps, puis l'histoire de l'été, puis c'est comme sa vie au quotidien. C'est un peu comme un journal intime de la vie de Carl Vézina. Puis rapidement, après avoir lu un recueil, bien, tu comprends un peu le personnage, puis après ça, tu le rencontres. Il est tout le temps dans les... dans tout ce qui est salon.
Il était au salon Nouveau Genre, Olivier, l'année dernière. Peut-être qu'il va être là cette année aussi.
Mais écoute, je le souhaite.
Oui. Ouais. Et quel conseil on donnerait? Il y a des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout cet univers-là, qui nous entendent parler de ce type, qui sont en train de se dire: ah, mon Dieu, il a l'air vraiment sympathique ou drôle de bibitte. Qu'est-ce qu'on leur dirait justement pour les inciter et pour leur permettre de bien aborder le travail de Carl Vézina et donc la série Beluga Joe?
Ben, commencer par venir en achat à Galerie Morgan Bridge. Il est en vente. Alors ça, c'est une bonne initiative. puis le reste, comment le lire?
Ben, il faut en lire plus qu'un, c'est ça aussi, je pense. Il faut comme, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que les thèmes soient, le fait que les thèmes soient récurrents, puis qu'ils parlent souvent de Nadine ou de d'autres choses, tu sais, on pourrait te dire, ça va comme se répéter tout ça. Moi, je trouve qu'au contraire, comme, ça fait comme gagner comme une profondeur, puis comme explorer juste comme plus loin ces sujets-là d'une façon vraiment, vraiment intéressante.
Puis c'est étrange, puis c'est pas facile d'accès non plus, puis c'est comme un petit livre bizarre, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont comme une fascination pour Calvin Vezina. Au départ, c'était moi, puis là, Olivier, Pierre, les gens, plus tranquillement, puis tu vois qu'il y a une espèce de magie pour vrai. Je ne suis pas le seul.
Ben, en fait, moi, je n'ai pas de magie pour lui. Je commençais à m'avoir, mais je me fais comme embarquer. Là.
Mais est-ce que ça sort pas mal à Morgan Bridge? Quand même, un peu.
De temps en temps.
De temps en temps. Quelques curieux qui osent.
Quelques curieux. Il y en a eu. Mais pas autant que j'aimerais, mais j'espère qu'il va y avoir des gens qui écoutent qui vont venir.
Au moins venir le lire.
Le lire.
Ah ouais. On met ça sur le blog, de toute façon, ça va de haut. Exactement. Puis après ça, ben, comme on aime bien avoir l'objet papier quand on lit quelque chose sur Internet, ben, la déclinaison est directe.
Pour pouvoir le partager, c'est intéressant.
Et répandre, comme vous le faites, Sam Murdoch, Pierre Girard, Olivier Bérard-Vidal, répandre la légende de Carl Vézina.
Ouais. Et on va faire sur le blog de l'émission, on peut mettre un Beluga Joe et l'adresse.
Oui.
Donc avec les informations, ou sur Facebook, tous les réseaux sociaux, Carl Vézina est là.
Et on peut rappeler l'adresse du blog, justement?
C'est Beluga, B-E-L-O-O-G-A-J-O-E, belugajoe.blogspot.com.
Tout simplement. Alors, ben, Sam, Pierre, merci beaucoup.
Merci.
Et Olivier Bérard-Vidal, merci également. Et on se dit au mois prochain de notre côté.
Certainement.
Et Sam, on se dit à la semaine prochaine.
Oui.
Voilà.
Merci.
Alors, ben, c'est là-dessus qu'on termine cette édition de La vie en BD ici à CKRL 89. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre grosse émission. Notamment, il y aura Stéphanie Leduc qui sera de passage pour parler de Titi et Crapouti. Et on va également parler d'une nouvelle BD de science-fiction qui a été lancée au Québec qui s'appelle Zidara 9. Alors, soyez là. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est 100% Dynamite qui prend la relève ici sur les ondes du 89.1. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous en ce vendredi et passez une bonne fin de soirée sur les ondes de CKRL.